RFI, il est 15h10 à Paris. Le journal d'Haïti et des Américains est présenté par Marion Cazanove.
Merci, Mayeul de Charon. À la une, cette journée ubuesque dans le bureau ovale raconté lors des auditions de la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole. Des témoins ont décrit une rencontre entre Donald Trump, alors président, et des figures conspirationnistes qui lui assurent que l'élection présidentielle est manipulée par la Chine et le Venezuela. Les États-Unis, où la question raciale reste un sujet d'actualité, en particulier dans le Sud, où certains parlent de ségrégation, post-ségrégation. La journaliste Géraldine Ruiz en a écrit un livre-enquête. Elle nous en racontera les grandes lignes dans cette édition. Et puis, à la une du journal des Outre-mer, la situation du Covid qui s'améliore en Martinique. Mais 4 morts sont à déplorer, Tiziana Maron.
Oui, des décès liés à l'apparition de nouveaux variants, nous expliquera le chef du service de réanimation du centre hospitalier de Martinique.
Et à tout à l'heure, Tiziana.
RFI, la radio du monde.
Et c'est sûrement la journée qui a poussé Donald Trump à appeler à une manifestation devant le Capitole avant l'assaut que l'on connaît. Une journée racontée hier à la commission d'enquête parlementaire sur cette journée du 6 janvier 2021. La presse américaine revient sur ses auditions. Bonjour Oriane Verdier.
Bonjour.
Hier, on en a su plus donc sur la responsabilité de Donald Trump dans cette affaire.
Oui, le Washington Post raconte notamment un vendredi soir explosif à la Maison-Blanche après la défaite de Donald Trump à la présidentielle. Ce soir-là, une équipe hétéroclite de conseillers non officiels de Donald Trump se ferait un chemin jusqu'au bureau ovale. Le but est de convaincre le président d'agir contre ce qu'il considère comme une élection volée. Le journal américain se base pour son récit sur plusieurs témoignages rendus publics, vous l'avez dit, par la commission. Celui d'Eric Hirschman, notamment l'ancien un conseiller à la Maison-Blanche affirme s'être opposé à ses invités surprises qui soutenaient qu'un complot international avait été mis en place pour pirater les machines de vote.
Ça criait tellement fort à un moment, c'était fou. Il disait que les démocrates travaillaient avec Hugo Chavez, les Vénézuéliens et que sais-je encore. Et quand je leur rappelais que toutes leurs plaintes en justice à travers tout le pays avaient été rejetées, ils répondaient que les juges sont corrompus. Quoi ? Tous les juges sont corrompus ? Même les juges que nous avons nommés nous-mêmes ? Pour moi, ce qu'ils proposaient était complètement dingue.
Alors malgré la querelle, Donald Trump finit par tweeter un peu plus tard dans la soirée. Il affirme qu'il est statistiquement impossible d'avoir perdu l'élection et appelle à une manifestation le 6 janvier. Il prévient même « Soyez là, ce sera dingue ». Trump avait planifié la marche, mais a voulu qu'elle semble spontanée, résume le New York Times.
Et alors une personne en particulier n'est pas d'accord avec cette version d'un assaut méticuleusement planifié par Donald Trump. John Bolton, l'ancien conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, s'est exprimé sur CNN.
Oui, puisque la nature de Donald Trump, selon lui, n'est tout simplement pas d'aller fomenter un plan, mais elle est d'aller d'une idée confuse à une autre en défendant ses propres intérêts. On ne peut pas y voir donc une attaque à la démocratie. Et Monsieur Bolton parle là en tant qu'expert. Puisqu'il en connaît un peu sur la question.
Pour avoir moi-même aidé à planifier des coups d'État, pas ici bien sûr, mais dans d'autres pays, je peux vous dire que ça demande beaucoup de travail. En l'occurrence, Donald Trump, lui, n'a fait que tâtonner d'une idée à l'autre.
Et pendant ce temps, Oriane, l'actuel président américain vient d'atterrir en Israël. Joe Biden entame une tournée au Proche et au Moyen-Orient. Après Israël, il se rendra dans les territoires palestiniens, puis en Arabie Saoudite. Comme tous ses prédécesseurs, le président américain est un allié d'Israël, mais il se présente aussi comme un opposant à la colonisation. Pourtant, elle continue de se développer dans le pays. Reportage de Sami Bourlifa.
Sur les toits de Silwan, quartier palestinien de Jérusalem-Est, drapeaux israéliens et croissants de lune, symboles de l'islam, se font face. Arabes, colons juifs, chacun veut marquer son territoire. Fahri Abou Diab est né et vit à Silwan depuis 60 ans.
La mairie de Jérusalem détruit les maisons des Palestiniens. D'abord, ils nous ont dit « Vos maisons ont été construites sans permis ». La plupart des maisons que vous voyez ici existent depuis bien avant l'occupation israélienne. Ensuite, la mairie a changé de discours, car la question est purement politique. Ils nous disent « Tout votre quartier est un héritage culturel, civilisationnel et religieux du peuple juif. Et donc, il faut raser vos maisons et les remplacer par une sorte de parc national, de sanctuaire juif. » Leur objectif est clair, Ils veulent expulser les Palestiniens et nous remplacer par des colons.
Selon le Centre de Jérusalem pour les droits économiques et sociaux, une ONG palestinienne, 23 000 avis de démolition sont actuellement en cours. Ils visent des maisons appartenant à des Palestiniens à Jérusalem. Pour le directeur de cette ONG, Ziad Al-Hamouri, le président américain Joe Biden n'y changera rien.
Les États-Unis sont le principal allié d'Israël. S'il n'y avait qu'un seul pays pour faire pression sur Israël, ce seraient les États-Unis. Mais les Américains préfèrent utiliser leur droit de veto pour protéger la colonisation. Si aujourd'hui on nous disait « c'est bon, vous pouvez établir votre pays, la Palestine », ce serait impossible. Nous n'avons plus de continuité territoriale entre les villes palestiniennes, que ce soit à Hébron, à Naplouse ou à Ramallah. Nous sommes assiégés par les colonies.
Plus de 200 000 colons israéliens vivent à Jérusalem-Est. Ils sont près d'un demi-million en Cisjordanie occupée. Samy Bourkifa, Jérusalem, RFI.
Un mois et demi après la tuerie de Uvalde au Texas, une vidéo réveille la colère des proches des victimes. 19 enfants et 2 enseignantes étaient tués par balle le 24 mai dernier dans une école. La police avait attendu plus de 70 minutes avant d'intervenir et la vidéo dévoilée aujourd'hui par des médias locaux est accablante. Cléa Broders, elle montre l'inaction des forces de l'ordre.
La vidéo, compilée sur 4 minutes, montre le tireur entrant dans l'école à 11h33. Il traverse un couloir lentement, puis il tire plus de 100 balles dans 2 salles de classe. 3 minutes plus tard, on voit les premiers officiers de police arriver, armés et en gilet pare-balles. On leur tire dessus et ils se replient. Le compteur de la vidéo tourne, les officiers ne s'avancent pas. Ce n'est qu'au bout d'une demi-heure environ que des dizaines d'agents avec des armes longues et des boucliers prennent position dans le couloir. Entre le moment où le tireur est entré dans l'école et le moment où les forces de l'ordre entrent dans la classe et tuent le tireur, il se passe 77 minutes. 77 minutes durant lesquelles il y a eu de nombreux appels au numéro d'urgence d'enfants et d'adultes demandant de l'aide, décrivant l'étendue de leurs blessures. Depuis le 24 mai, la réponse de la police fait l'objet d'une indignation persistante. Qu'ont fait les policiers pendant tout ce temps? Différentes agences de sécurité se trouvent sur les lieux, aucune ne se décide à affronter le tireur. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, notamment par le ministère de la Justice, mais leurs conclusions n'ont pas encore été rendues.
Et après la stupéfaction, la diffusion de ces images ont également créé un intense débat. On vous retrouve, Oriane Verdier, pour la suite de votre revue de presse. Oriane, les vidéos ont fuité avant que les autorités puissent les montrer aux familles des victimes.
Oui, le journal Texas Tribune aborde d'ailleurs la nouvelle par cet angle et affirme que cette décision a déclenché la rage des autorités texanes et du maire de la ville de Uvalde. Austin American Statements est l'un des 2 médias locaux responsable de la fuite. Dans une tribune, le site d'information texan affirme avoir voulu faire la lumière sur ce qu'il s'est passé dans cette école, alors que les proches des victimes cherchent toujours à comprendre ce qu'il s'est passé.
En Argentine, le pays risque d'être mobilisé par les agriculteurs rassemblés sur les routes du pays pour dénoncer le prix de l'essence et le poids des taxes. Le pays traverse actuellement une grave crise économique.
Hier soir, à la veille de cette mobilisation, le président de la Fédération agricole a envoyé un message clair au gouvernement. Un gouvernement et l'opposition qui doivent trouver une réponse face à l'inflation qui fait couler la société. Dans un éditorial, El País rappelle que l'Argentine souffre depuis des années d'une crise économique chronique qui demande à tous les secteurs d'être prêts à faire des compromis. Mais le problème actuel est aggravé, donc selon le journal, par une lutte interminable entre le président actuel et la vice-présidente Cristina Kirchner. Et
c'était la revue de presse d'Oriane Verdier. Malgré la fin de la ségrégation aux États-Unis, la question raciale reste très présente dans la société. Différents événements comme la mort de l'afro-américain George Floyd remettent régulièrement cette question au centre des débats. Géraldine Ruiz est journaliste. Elle a constaté qu'une sorte de ségrégation qui ne dit pas son nom persiste toujours dans le sud du pays. Elle en a tiré un livre-enquête baptisé « Memphis Rebelle ». Michael Ponge l'a reçu à RFI pour en parler.
On est entre le roman d'aventure et le roman d'apprentissage, entre l'enquête journalistique et l'enquête anthropologique. Bonjour Géraldine Ruiz.
Bonjour.
Vous nous embarquez avec vous dans ce périple. D'abord, sans destination, on navigue à vue à New York avant de mettre le cap sur le sud des États-Unis et de s'arrêter à Memphis. Vous allez véritablement être aimanté par cette ville du Tennessee, presque happé. Vous allez même y revenir à plusieurs reprises. En quoi Memphis constitue-t-elle aujourd'hui encore un symbole des fractures raciales qui persistent aux États-Unis ?
C'est un symbole pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le lieu de l'assassinat de Martin Luther King, donc ça reste dans les mémoires. C'est une ville qui est connue de tous pour sa musique, pour cette période dorée qu'elle a pu avoir dans le passé, mais aussi par cette violence au quotidien, par cette ségrégation toujours présente, ce qu'ils appellent là-bas la ségrégation post-ségrégation, c'est-à-dire que les lois ont été abolies, mais les mentalités sont restées les mêmes. Et puis donc cette question raciale qui est omniprésente encore aujourd'hui, et c'est ce qui a fait que j'ai été, comme vous dites, happée par cette ville et aimantée, c'est que j'y suis allée, j'avais envie de traiter ce sujet. Je suis quand même partie peut-être au hasard vers cette ville, j'avais en tête l'envie de traiter ce sujet, mais je pensais fouiller dans des archives. Dans ma tête, je visualisais un documentaire en noir et blanc. Je ne visualisais pas du tout quelque chose d'aussi vivant et aussi actuel. Et en arrivant, j'ai été frappée parce que cette question-là, elle était partout, elle était dans toutes les bouches. Je voyais des pancartes dans la rue qui traitaient de cette question-là, de la question raciale. Et donc, je suis restée.
Ça veut dire que tout est pensé, tout est hiérarchisé, même aussi selon la couleur de peau.
Oui, tout est perçu à travers ce prisme. Je vous donne un exemple très concret. J'aime marcher, j'ai fait du reportage là-bas et je n'avais pas toujours une voiture. Et donc, je sortais dans la rue et on me retenait en me disant « Une femme blanche sans arme à feu ne marche pas seule dans la rue. Une femme blanche ne va pas dans ce quartier-là. Ça, c'est le quartier des Noirs. Ça, c'est la station-service des Noirs. Toi, tu vas là-bas chez les Blancs, etc. » C'était dit comme ça, mais c'était pas... Là, je le dis, ça paraît presque agressif, mais là-bas, c'est vécu comme ça. Donc,
parce qu'il y a une peur des Blancs aussi, vous dites, face au réveil de la conscience noire, il y a cette crainte, en fait, qui nourrit aussi cette ségrégation.
Ah oui, elle n'a pas disparu. Chez les Blancs, il y a la crainte des représailles. Pour ce qui a été fait, en fait, il y a aussi ça. Enfin, je veux dire, ça marque aussi les mentalités. Il y a une espèce de tension. Je le sentais. Je raconte des scènes où j'avais l'impression qu'une allumette et ça flambait, quoi. Ça se sent.
Ouais. La question raciale, c'est ce que vous vous attachez aussi à démontrer dans votre enquête, ce n'est pas qu'une question de classe sociale, ou en tout cas, ce n'est pas qu'une question...
Économique.
Économique, exactement.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est une expérience sociale. Je ne fais pas la même expérience de l'espace public, je ne fais pas la même expérience de l'université, je ne fais pas la même expérience de l'école, je ne fais pas la même expérience... Toute expérience est sociale, finalement, et elle est liée à la couleur de peau. Mais ça n'a rien à voir avec l'économie et les moyens financiers. Je peux très bien être noire, être très bien diplômée et finir président des États-Unis. Et au contraire, être blanc, végété, camé dans une région des États-Unis.
Le jeu dans votre récit, la première personne, tient une place importante. Pourquoi c'est important aussi de voir cette question raciale aux États-Unis à travers vos yeux à vous ?
À un moment, il y a la question de la primauté. Qu'est-ce qui compte dans notre métier journaliste ? Qu'est-ce qui passe avant tout notre couleur de peau ou notre métier ? Je trouve qu'elle est très très importante cette question et pour moi ma réponse c'est de dire c'est mon métier qui passe avant tout. Surtout que ce livre il m'a été commandé après la mort de George Floyd et le débat arrivé en France, c'était extrêmement virulent et autour de moi on me disait qu'est-ce qu'une blanche va faire dans un débat pareil ? Et il m'a paru indispensable, justement, dans ce contexte-là, de le faire. Et de dire, non, je reste journaliste avant tout. Par contre, j'assume. Par contre, je vais dire je. Par contre, je vais expliquer aussi pourquoi je dis je. Et je vais me placer.
Du journalisme qui frôle, je le disais aussi, à la limite de l'anthropologie. Un rédacteur en chef va même vous le dire. Vous n'êtes plus journaliste là dans ce que vous faites. Où se situe finalement la limite entre les deux, entre le journalisme et l'anthropologie ?
Je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Je questionne ma place dans un écosystème. Donc ça, je pense que ça peut poser question, en tout cas, sur ma pratique. Et sur un sujet comme l'identité, ça me paraît... on n'est pas non plus des cailloux. Enfin, je veux dire, on reste des êtres humains, on a aussi notre culture, et même si on fait du mieux qu'on peut, les journalistes ne sont pas non plus des êtres extraordinaires.
D'où l'importance de ce jeu.
L'importance de ce jeu. Mais pour la question de l'anthropologie, j'ai pas de réponse.
On laissera la responsabilité de ces propos à ce rédacteur en chef. Un dernier point, Géraldine Ruiz, vous l'avez mentionné, vous rentrez en France, vous voyez arriver le mouvement Black Lives Matter, en tout cas son traitement par les médias français, vous suivez aussi le traitement médiatique de la mort de George Floyd, et vous dénoncez le mot est peut-être un peu fort, mais la façon dont on a aujourd'hui en France la mauvaise habitude, entre guillemets, de calquer avec une grille de lecture américaine ce qui se passe chez nous, ou en tout cas en dehors des États-Unis. L'erreur est peut-être là aussi.
C'est sûr que ça peut me laisser, et ça m'a laissé perplexe. Mais je peux comprendre le cheminement parce que je l'ai moi-même vécu en allant aux États-Unis en 2015 faire mon premier sujet. Mon esprit s'est lui-même américanisé. Enfin, je veux dire, moi aussi, quand je suis rentrée la première fois des États-Unis en France, je parlais à l'américaine, j'analysais tout à travers ce prisme-là de la question raciale, j'utilisais les mêmes mots qu'eux, j'avais la même virulence en fait, mais c'était un principe de déconstruction qui me semble indispensable. Cet élan de déconstruction, j'arrive pas à voir où démarre la suite, c'est-à-dire la reconstruction. J'ai l'impression qu'on trouve pas cette solution heureuse, enfin, c'est même pas qu'une impression. Et en plus, les analyses montrent, les politologues montrent que c'est l'absence d'alliance qui fait qu'on ne trouve pas la solution, en fait.
Oui. Et vous le dites très bien, d'ailleurs, les combats ne se partagent pas, ils vivent en parallèle. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous a frappé, marqué.
Oui, ça m'a marqué notamment quand j'étais auprès des Amérindiens et que le mouvement noir américain avait totalement disparu de nos pensées, de nos réflexions, etc. Et il y a juste eu un moment où j'étais face à une Amérindienne qui m'expliquait la domination qu'il vivait et que je ne remettrais jamais en question, évidemment. Et j'ai vu la similitude, j'ai vu l'humain, quoi. Je ne sais pas si...
Oublié peut-être derrière ces luttes.
Exactement.
Ça s'appelle Memphis Rebelle, et c'est aux éditions de Noël et c'est donc signé Géraldine Ruiz. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci bien à vous donc, Michael Ponge.
Le journal de l'Outre-mer.
En Martinique, malgré la nette amélioration de la situation épidémique du Covid, des décès sont à déplorer. Bonjour Tiziana Marone.
Bonjour Marion. 28 personnes ont dû être hospitalisées la semaine dernière et 4 nouveaux décès ont été enregistrés. Des décès liés aux nouveaux variants, nous dit le docteur Ousseni Medaoui. Il est le chef du service réanimation au CHU de Martinique et répond à Edilia et Eugène Mormin de Martinique La Première.
Le virus n'est pas tout à fait moins dangereux, il a changé, c'est sûr, et les formes cliniques elles sont moins sévères chez les personnes qui vont bien. En revanche, elles restent tout aussi graves chez les gens âgés et chez des gens qui sont, on dit, immunodéprimés, c'est-à-dire qui ont des problèmes immunitaires. Ça va être parfois des greffés, ça va être les gens traités pour le cancer, ça va être des gens avec des maladies chroniques qui sont équilibrées jusque-là. Et lorsqu'ils vont rencontrer le virus, là, leurs défenses sont insuffisantes pour les protéger des formes graves.
Direction Le Gosier, en Guadeloupe, où l'association Samouraï Créole organise des ateliers de sensibilisation des jeunes dans le cadre de la lutte contre la pré-délinquance. Hier, il a été question d'insécurité et d'incivisme autour d'activités ludiques et informatives. Jean Wilder, juriste et enquêteur de justice, souligne l'importance de la prévention au micro de Nicolas Pietrus de Guadeloupe La Première.
Il est important de pouvoir prendre en charge les jeunes très tôt. Donc, prédélinquance, c'est, pour ces jeunes, c'est beaucoup dire. C'est juste une prise en charge pour sensibiliser les jeunes sur leurs actes aujourd'hui et les conséquences demain. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la prévention, le parcours des victimes ou de la victime, pour dire aux jeunes, aujourd'hui, si vous commettez un acte répréhensible, vous pouvez être du côté de l'auteur, demain, vous pourrez aussi être du côté de la victime.
Après 2 faux départs ce matin, il vient enfin de décoller de la base spatiale de Kourou en Guyane. Il s'agit du tout nouveau lanceur italien baptisé Vega C. Pour son premier vol, 7 satellites seront mis en orbite pour autant de missions scientifiques. Franck Lecomte de Guyane La Première.
Pour sa première mission, Vega C va devoir prouver immédiatement ses capacités d'adaptation en plaçant un satellite scientifique, puis un groupe de mini-charges utiles, des CubeSat, au nombre de 6. Le plus gros passager est l'Ares 2. Pour le compte de l'agence spatiale italienne, ce satellite doit mesurer la distorsion de l'espace-temps causée par la rotation de la Terre. Nous sommes au cœur de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Beaucoup de passagers à larguer, cela signifie que la mission sera longue. Il faudra 2h15 à Vega C pour la remplir.
Franck Lecomte de Guyane La Première, et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci Tiziana Marone pour le journal de l'Outre-mer. C'est ainsi que s'achève ce journal des Amériques. Merci à Yann Bourdelas qui était à la réalisation aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure, 13h10, en temps universel.